Bonjour à tous et bienvenue dans Analyse F1, le podcast consacré à la Formule 1. Et aujourd'hui, on va parler d'actualité, que ce soit Formule 1, Formule E, puisque dans une première partie de podcast, je parlerai de la réduction des coûts en F1, un vaste sujet, il est vrai, mais j'aborderai les récentes nouvelles à propos de cette réduction des coûts qui semble battre de l'aile encore plus. Donc il me paraît important d'en parler parce que c'est peut-être la foi de trop tout simplement. Et dans une deuxième partie de podcast, je parlerai du 8e e-prix de Formule E qui s'est tenu à Berlin et qui a été ponctué de nombreuses actions, on va le voir, avec une lutte pour le titre qui bat son plein et ça va être le cas sûrement jusqu'à la fin. Avant d'aborder ces deux sujets, je vais vous parler un peu du Grand Prix de Monaco qui a eu lieu il y a 2 semaines donc dans la principauté et qui a marqué la victoire de Nico Rosberg pour la 3e fois consécutive dans les rues monégasques, ce qui est une sacrée performance très peu réalisée dans l'histoire, même si tout le monde conviendra de dire et lui le premier que il a eu un peu de chance pour même pas mal de chance pour accéder à la victoire à cause du malheureux arrêt au stand effectué pour Lewis Hamilton sous régime de safety car. Mais voilà, c'est une victoire qu'il prend, hein, c'est 25 points, il revient à 10 points de son coéquipier britannique et la lutte pour le titre est mathématiquement relancée, mais Rosberg doit selon moi continuer son chemin, continuer à prouver, hein, Barcelone, Monaco, là ça va être le Canada, il doit continuer dans les prochains Grands Prix à donner de la concurrence à son coéquipier, parce que son coéquipier il semble encore dominant, Hamilton on le sent encore quand même assez dominant sur Nico Rosberg, et il faut que cette tendance s'inverse, ou du moins qu'il y ait un doute dans l'esprit d'Hamilton, qui est vraiment une lutte. Ça serait bien pour le duel et moins bien pour Hamilton, ça c'est clair. Donc on verra ça déjà ce week-end au Canada, à Montréal. Donc allez, assez parlé de l'actualité chaude hein, qui concerne quand même la lutte pour le titre, donc c'était important de revenir brièvement dessus. Et évidemment, je pense que je reviendrai plus longuement dessus au cours d'un autre podcast à travers une autre analyse. Donc, le sempiternel échec de la réduction des coûts en F1, voilà le titre de cette chronique. Alors, pourquoi ce titre? Eh bien, tout simplement parce qu'on parle de réduction des coûts en F1 depuis quelques années, mais finalement, on n'en voit pas tellement la couleur, tout simplement. On n'en voit pas tellement la couleur. C'est pour ça qu'à chaque fois, on peut parler d'échec. Et là, le sempiternel échec, c'est l'échec qui vraiment se prolonge sur la durée et se prolonge un peu trop, étant donné les promesses qui ont été faites. Donc voilà. Et puis sempiternel aussi, c'est pour montrer aussi ma déception également, parce que j'y ai cru honnêtement, vous aussi peut-être, vous y avez cru. Pourquoi on y aurait cru? Pourquoi on a pu y croire? Parce qu'on a tous entendu les mêmes mots de la part de la Formule 1. Même les motoristes et les écuries y ont cru, c'est pour dire. Quelle bande de naïfs, n'empêche. Et là, je suis ironique. Je suis ironique parce que c'est les premiers touchés par le fait que la réduction des coûts ne soit pas vraiment effective, à part via quelques actions ici et là. Mais de manière globale, il n'y a pas de réelle réduction des coûts en F1. Et c'est pour ça qu'on entend les écuries, les motoristes se plaindre. Et d'ailleurs, dernièrement, on a eu une déclaration de Renault via Cyril Abitbol en personne, qui gère Renault Sport F1. Et donc, il a déclaré que, à cause de la forte concurrence, bon après, c'est la Formule 1, donc on pouvait s'y attendre, mais à cause de la forte concurrence, Renault, ainsi que les autres motoristes qui sont en dessous de Mercedes, en gros, doivent redoubler d'efforts pour développer, Mercedes aussi pour rester devant du coup, pour développer le moteur, et donc logiquement, qui dit plus de développement, dit plus d'argent dépensé dans ce développement. C'est d'une logique implacable. Et donc, déjà que les coûts de base pour concevoir un V6 turbo-hybride, les coûts de base, c'est-à-dire, quand je parle de ça, je parle des coûts qui ont été ceux d'avant 2014 pour concevoir le premier V6 turbo-hybride, ils ont été assez immenses, hein. On se souvient de déclarations assez tapageuses, puisque on avait vu les chiffres et c'était avec quand même pas mal de zéros. Et donc là, on voit que l'année passe, là il y a la deuxième année, et on voit que il y a toujours beaucoup d'argent dépensé pour développer. Et c'est un problème, c'est véritablement un problème, parce qu'on avait promis aux écuries et aux motoristes, comme je l'ai dit, une réduction des coûts via la nouvelle réglementation moteur. On avait promis ça, et ce n'est pas le cas pour l'instant du moins. Il y a des solutions, bien entendu, mais la solution qui est selon moi la plus logique est également la plus paradoxale. Parce que effectivement, le but là de la réglementation moteur en Formule 1, c'est de faire un gel progressif des moteurs avec de moins en moins de jetons alloués au fil des années pour développer le moteur, et ensuite ça aboutira à un gel des moteurs. Donc les motoristes ne pourront plus toucher à leur unité de puissance et seront obligés de ne plus développer, donc de ne plus dépenser d'argent. Donc dans la logique du règlement, on peut se dire oui, en effet, il n'y aurait pas de surcoût avec ça, mais seulement ça n'arrange pas les motoristes qui ne se voient pas dominants. Et donc on entend souvent Renault, on entendait aussi Ferrari la saison dernière, moins cette année, bizarrement, depuis qu'ils sont revenus dans le coup. Mais on entend Renault pester depuis le début à propos de cette réglementation. Ils ne veulent pas de ça, ils ne veulent pas de ça, parce que s'ils ne sont pas dominants au bout du compte, eh ben ce serait pas du tout bon en termes de fruits récoltés. Et donc quand je parle de fruits récoltés, je parle évidemment de performance. Pas de performance, où est l'intérêt selon Renault, et la mauvaise image, et d'autres choses qui concernent le marketing et on va dire l'intérêt d'être en F1. Mais pour cela, voilà, il faut admettre que la F1 est une discipline ultra concurrentielle, et il faut être bon. Il faut être bon, et il faut pouvoir aussi s'avouer vaincu pour mieux rebondir, justement. Pour mieux rebondir. Et Renault part directement dans une posture de perdant. Et ça, je n'aime pas du tout de la part du motoriste français. Pourtant, le motoriste français pourrait partir comme des favoris, des darons. Je rappelle qu'avec Red Bull, ils ont eu de sacrés bons résultats avec le V8. Ils ont eu une très bonne ère V8. Ils ont eu une fin d'ère V10 plutôt pas mal, hein, 2005-2006. Et ça avait commencé aussi en 2004 à bien monter. Oh, Renault, je ne comprends pas. Et leurs résultats traduisent leur façon d'être, hein, tout simplement. Il faut qu'ils réagissent et qu'ils agissent pour revenir au top, et donc il n'y aura pas de problème. Voilà, la F1 est une discipline concurrentielle. S'il n'y avait pas de gel progressif des moteurs, eh bien selon moi, il n'y aurait pas de concurrence. Comme je l'avais dit d'ailleurs dans le podcast sur le gel pas givré des moteurs, d'ailleurs ça s'appelait comme ça, donc si ça peut faciliter votre recherche, n'hésitez pas à aller consulter ce podcast qui est encore relativement d'actualité, vu que je n'ai pas changé de point de vue là-dessus, et que le gel des moteurs est encore viable, est encore actif dans le règlement. Voilà, donc ça c'était du côté motoriste, donc déjà un problème avec une solution qui ne conviendrait pas, qui est, c'est vrai, assez paradoxal du point de vue de certains motoristes. Ça peut se comprendre, hein, ça c'est clair, mais faut pas se mettre dans la posture directement de perdant. Ça, c'est, mon avis, c'est anti-productif. Voilà, il y aurait cette solution. Du côté des écuries également, on se plaint. Williams, il y a quelques mois, pointait du doigt la facture salée qui est due aux motoristes. Donc le motoriste de Williams, c'est Mercedes, mais que ce soit Williams ou Toro Rosso ou Ferrari ou Sauber ou McLaren, la facture a doublé par rapport au V8, tout simplement. Le prix a doublé, hein, par rapport au V8. Donc voilà, et là on parle de Williams, hein. Je parle de Williams hein, qui avait déclaré ça. Donc je parle pas d'écuries plus pauvres comme Lotus, Force India ou Sauber, qui par ailleurs se plaignent souvent qu'il n'y a pas de réduction des coûts. Donc voilà, ça pose un peu l'ambiance autour de cette réduction des coûts et du moteur et des prix du moteur tout simplement. Et d'ailleurs, pourquoi une grogne d'ailleurs des écuries? Eh bien, tout simplement, c'est pareil que pour les motoristes. On leur a promis cette réduction des coûts. Et c'était un argument clé en 2010, souvenez-vous, pour attirer les nouvelles écuries. Donc, il y en avait trois. C'était le Team Lotus, qui est ensuite devenu Caterham, Marussia, qui est aujourd'hui Manor, et HRT. Avant, on avait promis une réduction des coûts. On avait aussi promis des budgets plafonnés, des budgets plafonds. Qui était une très mauvaise idée par ailleurs et qui n'a pas été adoptée, heureusement. Mais voilà, la réduction des coûts, en tout cas, on en parle depuis... C'est l'Arlésienne, hein, on en parle depuis X années et on n'en voit pas le bout. Et pour les écuries à qui on a promis ça, c'est vrai qu'ils ont des raisons de s'énerver. Et pas que les nouvelles écuries, hein, aussi les écuries à qui on a dit « Mais vous inquiétez pas !» Dans la F1, on va tout faire pour qu'il y ait une réduction des coûts. Comme ça, vous pourrez rester en F1, donc rester et continuer d'investir dans notre discipline et de la faire vivre. Et évidemment, donc les écuries ont fait confiance, ont suivi. Mais malheureusement, les promesses n'ont pas été tenues. Et ça a entraîné quoi ? On pourrait se dire ça a entraîné des discussions autour de la réduction des coûts, autour d'actions à entreprendre. Oui, il y a eu des dialogues. Il y a eu un dialogue entamé, mais c'est un dialogue de sourds. À chaque fois aux réunions du groupe stratégique et également à d'autres occasions, c'est un dialogue de sourds, des déclarations par presse interposées. C'est que ça depuis des années et c'est fatigant tout simplement, c'est fatigant. Donc moi j'ai envie de dire, arrêtons de se cacher. Il faut que la F1 arrête de se cacher et arrête de promettre la lune. Une lune qui n'est pas possible, qui n'est pas atteignable à portée de main, même si on fait 2 mètres, hein, ce n'est pas possible. Tout simplement, la F1 est un sport cher. C'est le sommet du sport auto. C'est le sommet du sport auto. Donc, forcément, c'est un sport qui est cher, voire très cher. Et le gel des moteurs pourrait être une solution. Ça, c'est clair. Ça pourrait être une solution quand ce sera acté, mais c'est pas encore acté. Il y a quand même pas mal de discussions hein, avec des personnes qui ne sont pas d'accord, hein, d'autres qui sont d'accord. Mais voilà, dans le même temps que le gel des moteurs, il faut aussi rappeler qu'on veut augmenter la puissance de manière significative en 2017 des moteurs. Et donc, en faisant ça, on augmenterait les coûts. On augmenterait les coûts. Et ça... Ça changerait tout, parce que, certes, à terme, s'il y a un gel des moteurs, ben c'est bien. Il y aura moins de coûts de développement, et la facture des écuries sera sûrement moins salée l'année d'après. Mais le problème, c'est que si dans le même temps qu'on parle de ce gel des moteurs et que progressivement on alloue moins de jetons à utiliser pour le développement, et bien dans le même temps, plein milieu, on veut augmenter la puissance des moteurs. Donc ça signifie plus d'argent à dépenser. Donc voilà, la F1 doit arrêter de se cacher et doit dire, bon, certes, on va essayer d'alléger les coûts, mais les coûts seront quand même très chers. C'est la F1, donc pour rester, il faut poser les couilles sur la table. Hein. Permettez-moi l'expression, désolé, mais il fallait que je la sorte. Hein. L'expression, évidemment, n'allez pas penser à autre chose. Ce serait très malvenu. Donc voilà, il faut tout poser sur la table et pour être en F1, tout simplement. Mais il faut que la F1 ait cette communication-là. Parce que évidemment, selon moi, après on peut dire « Ouais, mais les petites écuries, on en a marre de les entendre se plaindre. » Mais forcément qu'elles se plaignent, on leur a promis des choses qui n'arrivent pas. Il faut être franche, selon moi, en Formule 1. La F1 est chère, tout simplement. Mais à mon avis, la F1 a aussi peur de se retrouver avec quasi moitié moins d'écuries. Il y a peut-être de ça aussi, hein. Donc ceci explique aussi cela. Ce n'est pas aussi simple que d'être franc du collier tout le temps, je pense. Et voilà, il faut aussi tenir compte des faits, c'est-à-dire de l'histoire de la Formule 1pour tout le monde. Là, c'est un message à tout le monde, à la F1, aux écuries, aux motoristes. Depuis toujours, depuis 1950, depuis que la F1 est née. Le sport a été une discipline en constante évolution. Tout le temps, en évolution constante. Et d'ailleurs, à l'occasion des 60 ans de la Formule 1, je crois, il y avait une vidéo qui était sortie avec... que vous trouverez sur YouTube, très certainement, avec... le design des voitures qui défilait petit à petit dans la vidéo, on se rend bien compte, ça illustre bien cette évolution constante. Et donc bref, il faut avoir ça à l'esprit. Il faut vraiment avoir ça à l'esprit, parce qu'une évolution constante, ça évoque eh bien, évidemment des coûts qui peuvent augmenter à chaque évolution. Et une évolution peut intervenir, on va dire, n'importe quand la technologie est disponible, quand c'est le bon moment, tout simplement, quand il faut... Quand la F1 sent qu'il faut donner un coup de collier au niveau de l'évolution, que ce soit en termes de puissance, en termes de technologie, ben là, hybride en l'occurrence, hein, en ce moment. Donc il faut vraiment avoir tout ça à l'esprit afin d'envisager ce sport, tout simplement. Et si tout le monde a ça à l'esprit, à mon avis, ça poserait pas de problème. Il y aura un discours un peu plus posé. Il y aurait, on va dire, des investissements plus réalistes de la part des écuries et des motoristes sûrement aussi. Et il y aurait peut-être moins d'écuries en Formule 1, c'est possible. À voir. Comme je l'ai dit, c'est pas aussi simple. Mais arrêtons de se cacher. Arrêtons de se cacher. Donc en résumé, voilà. La réduction des coûts en F1 est un échec. On peut espérer... Évidemment qu'il y ait un allègement des coûts, pas une véritable réduction, mais un allègement de certains coûts via certaines décisions spontanées. Mais il y aura toujours, dans une décennie de F1, des moments où il y aura une forte augmentation de coûts due à une évolution technologique. Il faut toujours s'y attendre. Donc la F1 doit arrêter de vendre un rêve qui n'existe pas, tout simplement. Le rêve qui existe, c'est que la F1 évolue. La F1 est le sommet du sport automobile avec une technologie formidable et qui est en constante amélioration et avec une puissance fabuleuse des monoplaces. Voilà, tout simplement. Avant de parler du Grand Prix de Formule 1, où là aussi on a quand même pas mal de technologies, eh bien on va s'écouter une petite pause musicale. Il s'agit du titre Alonso par Lissi. Alors... Je ne sais pas honnêtement, je ne sais pas si cette chanson est dédiée à Fernando Alonso ou au footballeur Xabi Alonso ou à tout autre Alonso. Je ne sais pas, mais j'aime bien écouter cette musique en pensant que c'est pour Alonso. Vous verrez, ayez le même état d'esprit et ça vous fera peut-être sourire. Allez, bonne écoute et à tout de suite.
Isključen do sukcesu. Tobie daj krew. To produkt naturalny. Jaki śmierć. Niszczyciel. Alonso de Rivera. Niszczyciel. Alonso de Rivera. We'll be right back. bardzo. Alonso. Alonso. Alonso.
Vous écoutez bien Analyse F1 et nous sommes de retour pour parler du 8e e-prix de Formule E. Alors, avant de parler de ce e-prix qui s'est déroulé à Berlin, eh bien, quelques news de la Formule E. Il y a quelques temps, une dizaine de jours, je crois, 10-12 jours, voire un peu plus, la Formule E s'est rendue à Pau, en France, à l'occasion du Grand Prix de Formule 3, de F3. Il s'agissait de faire une démo sur le circuit de Pau, qui est un circuit assez réputé dans le monde du sport auto. Et donc, si vous avez été dans le coin, peut-être que vous avez pu voir les Formule E à l'œuvre, à Pau. Et vous avez été chanceux, n'empêche, si vous avez eu l'occasion. Et n'hésitez pas, hein, si vous avez vu ces Formule E, si vous avez des photos, n'hésitez pas à les poster, à me mentionner sur Twitter, voire à les poster avec le hashtag, le fameux hashtag « Vivons notre passion ». Et je regarderai tout ça avec grande attention, je vous prie de croire. Alors les pilotes qui testaient, il y avait je crois Jérôme D'Ambrosio, Loïc Duval, et je ne me souviens plus du petit dernier. Esteban Ocon, voilà, Esteban Ocon, qui avait l'occasion de tester la Formule E. Ensuite, une autre grosse news pour la saison prochaine de Formule E, Citroën, hein, qui s'est donc intéressé au WTCC à partir de 2014, eh bien s'intéresse à la monoplace. C'est une surprise, hein, c'était une surprise de voir ça, puisque Citroën a entamé des tests pour la Formule E. Donc, est-ce que ça voudrait dire une entrée en monoplace via cette discipline? Alors là, bon, on ne sait pas, il n'y a pas eu d'annonce officielle. On parlerait d'une entrée en Formule E avec Virgin, Citroën et Virgin ensemble. À voir. En tout cas, il y a eu des tests, voilà, c'est tout ce qu'on sait. Il y a eu des tests pour la Formule E, donc affaire à suivre. Maintenant, parlons de la course de Formule E. La course à Berlin sur cette piste avec un asphalte si particulier puisque c'est sur un aérodrome, aéroport, je ne sais plus. Enfin bref, c'est une piste d'avion et donc l'asphalte est assez particulier, assez glissant, défini par les pilotes comme assez glissant. Et ça a entraîné d'ailleurs quelques erreurs durant le Grand Prix, très peu, mais... Une erreur de Trulli au virage 2 ou 3, et qui était en pole position, Trulli, et qui a donc perdu la tête. Une grosse erreur. Daniel Abt également a fait une énorme erreur. Hein. Il partait 5e, et puis il a effectué un tête-à-queue à ce même virage. Et donc, il est reparti en fond de grille et n'a pas pu inscrire de points. C'est dommage. Il a fait quelques erreurs cette saison. Il a montré une pointe de vitesse intéressante, mais il a été trop irrégulier, surtout par rapport à son coéquipier Di Grassi qui a été presque quasi impérial tout du long. Quasiment. Je précise le quasiment qui va être très important dans quelques minutes. Voilà. Donc, Di Grassi, en parlant de lui, d'ailleurs, il a mené la course de bout en bout. Avec une avance d'environ 10 secondes, quand il a eu 10 secondes d'avance, il a stabilisé l'avance et il les a eu quand même très vite ces 10 secondes. Et donc il y a eu de l'action plutôt derrière avec Jérôme D'Ambrosio qui allait chercher la deuxième place hein, devant Sébastien Buemi. Il a effectué un dépassement. Donc c'était très intéressant, le pilote belge qui vraiment après son top 5, après sa cinquième place à l'e-prix d'avant, confirme vraiment. Nelson Piquet Junior est toujours le maître en termes de gestion d'énergie. Toujours. Depuis quelques e-prix, je le souligne, j'y mets en avant parce que c'est très important dans cette discipline de pouvoir faire un tour en plus que les autres pour pouvoir gagner des places au pit stop et surtout aussi avoir plus d'énergie à la fin pour pouvoir doubler ses concurrents. Mais malheureusement, il a fait une qualification très très mauvaise, catastrophique, avec une 13e place. Heureusement, il a fait un très bon départ, a gagné, je crois, 4 places hein, environ. Et ensuite, sa gestion de l'énergie lui a permis de passer deux pilotes au deuxième relais Et donc, il finit en cinquième position, ou plutôt en quatrième position. En quatrième position. Et je vais vous expliquer pourquoi juste après. Bon, il aurait pu viser mieux. Il peut avoir des regrets quand même, Nelson Piquet Junior. Il lutte pour le titre, hein, je le rappelle. Il aurait pu viser mieux avec une meilleure qualification. Il a le meilleur tour en course, évidemment, hein, avec sa stratégie. Ce qui est très intéressant puisque le meilleur tour en course octroie 2 points de plus au pilote qui l'effectue. Donc, très bien joué de sa part. Et également, il s'en sort bien hein, avec cette quatrième place. Quatrième place, pourquoi ? Pourquoi tout le monde gagne une place derrière le premier ? Tout simplement parce que le premier a été disqualifié. Di Grassi, dont on pensait que sa victoire était vraiment une grosse victoire et marquait vraiment le fait qu'il allait gagner le championnat, qu'il s'installe définitivement en tête, eh bien non. Il a été disqualifié quelques temps après la fin de course, car son aileron avant s'est avéré non conforme au règlement, puisqu'il y a eu des modifications au niveau des flaps, et ces modifications s'avèrent illégales. Et donc c'est vraiment très très bête, hein, vraiment très idiot de la part de l'écurie Apt ou et de Di Grassi d'avoir fait ça tout simplement. C'est de la triche et la disqualification est plutôt logique. Mais c'est triste parce qu'il n'a pas besoin de ça. Sa pointe de vitesse depuis le début de la saison prouve bien qu'il n'a pas besoin de ça. Et là, il perd 25 points. Il perd surtout pas mal de points sur ses concurrents. Et ça va être compliqué. Et par conséquent, on retrouve la victoire du Belge Jérôme D'Ambrosio qui, après des résultats réguliers vraiment toute la saison, hein, il a fait une saison, on va dire, plutôt... Enfin, plus ou moins anonyme, avec des places d'honneur, très souvent des places d'honneur, hein, très souvent top 8. Et à l'Ipri qui a précédé Berlin, il a fait, c'était Monaco je crois d'ailleurs, il a fait 5e, et là il fait 1er. Il rentre enfin un très bon résultat, et bon, quoi de mieux qu'une victoire hein, pour avoir ce premier très bon résultat. Donc est-ce que D'Ambrosio pourrait être ce pilote dont je parlais lors du précédent podcast où j'ai parlé de Formule E, ce pilote qui, dans les 5 derniers E-Prix, va inscrire que des top 5 et le plus souvent des top 3 pour lutter pour le titre, eh bien, ça pourrait être. Pour l'instant, il en prend le chemin, mais on est qu'à, sur le rush final des 5 derniers E-Prix, on n'en est qu'à 2 E-Prix, donc on va pas non plus s'emballer. Il faut qu'il confirme. Il aura les projecteurs pointés beaucoup plus sur lui dorénavant, et à voir comment il gère ça également, hein. Ça a son importance. Et évidemment, il aura aussi ses adversaires qui regarderont un peu plus dans le rétroviseur quand il sera derrière. Parce que vous le verrez, au championnat, il s'est vraiment rapproché. Deuxième du IPRI, Sébastien Buemi. Très bon résultat. Il reste dans la lutte pour le titre. Double Di Grassi au championnat. Et il revient tout simplement sur la tête, hein. Il est à quelques points seulement de piqué. Donc c'est une très bonne course. Hein. Je crois qu'il est parti deuxième ou troisième. Il finit deuxième. Bon, bah, c'est très bien. Troisième, Loïc Duval. Hein. Une demi-surprise, hein, Loïc Duval. Il fait partie du team Dragon Racing avec Jérôme D'Ambrosio. D'ailleurs, le Dragon Racing qui a fait une très belle course. Et c'est une sensation, Loïc Duval, depuis qu'il est en Formule E. C'est une sensation. Il montre vraiment son talent pur, comme il a l'habitude de le faire dans toutes les disciplines où il passe. Hein. Il est polyvalent parce que je rappelle, Loïc Duval... Il me semble qu'il a été champion plusieurs fois, ou une fois, enfin bref, il a été champion en Formule Nippon, en monoplace. C'est la Super Formula, je crois. Il fait de l'endurance où il réussit quand même très très bien. Et là, en Formule E également, depuis qu'il est en Formule E, il a enregistré quasiment que des bons résultats. Hein. Sa première course était très bonne. On le voit faire quand même très peu d'erreurs. Et là, faire troisième, c'est vraiment... vraiment très bien joué de sa part. Et voilà, et si on veut être vraiment... Si on veut montrer un chauvinisme exacerbé après vous avoir compté ce top 3, eh bien on a premier un Belge, deuxième un Suisse, troisième un Français, et donc les trois sont francophones, hein, il faut bien le dire, les trois francophones sur le podium. Donc si vous êtes adepte du chauvinisme stade 2, je vais l'appeler chauvinisme stade 2, les vrais comprendront... Ou plutôt pas les vrais, parce que les vrais regardent peut-être d'autres chaînes d'ailleurs, mais bon, on n'a pas tous l'occasion d'avoir ces chaînes payantes, donc à mon avis, tout le monde va comprendre ce que je veux dire par chauvinisme stade 2, mais voilà, trois francophones sur le podium. En quatrième position du E-Prix, on trouve Nelson Piquet Junior, voilà, ben j'ai tout dit, à part que c'est un très bon résultat pour le championnat, puisqu'il revient en tête du championnat, 5e et 6e, les Venturi, Hetfeld et Sarrazin dans cet ordre. Donc enfin un tir groupé bon de la part des Venturi, mais c'est un peu trop tard dans la saison. 7e Vergne, de bons points, rien à dire de plus. 8e Bird, c'est la déception, il n'a pas réussi à dépasser Vergne de la course. Il a fait une mauvaise qualification et la course pour le titre, eh ben, ça va, je pense, se faire sans lui parce que ça fait un petit moment déjà que je dis qu'il s'éloigne de la course au titre. 9e Luyodi, donc ça fait quelques points pour le team Trulli, qui en était en manque d'ailleurs depuis longtemps. Mais il y a quand même, un sentiment amer de la part du team Trulli, puisque Yarno Trulli partait en première place et qu'il a fait une course très mauvaise, une grosse erreur qui lui a coûté la première place tout d'abord. Et ensuite, il n'a pas pu résister à ses concurrents parce qu'il était trop lent en course, tout simplement. Son rythme était très faible et il finit très très loin. Très très loin au classement. En 10e position, on retrouve Nico Prost. Grosse déception de sa part. Il marque encore un point. Il va avoir son trophée qui n'existe pas du seul pilote qui aura inscrit des points à tous les prix. Mais là, dans la lutte pour le titre, il faut marquer quand même des gros points. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est sa 3e course de suite, moyenne, voire mauvaise. Et là, en plus, ce que je lui reproche là sur cette course, c'est de ne pas avoir cherché à défendre ses positions. Alors qu'il aurait dû, surtout, dans les moments clés, pour rester dans le bon peloton. Parce que, certes, on peut ne pas défendre une position pour éviter de perdre du temps et se dire « Bon, c'est pas grave, je vais pas prendre de risque hein, d'accrochage. » Mais là, c'était trop exagéré. Et puis, il y a des moments où il aurait dû se défendre justement pour rester devant. Quand je parle du bon peloton, c'est ça que je veux dire. Il aurait dû défendre ses positions à ces moments-là, à ces moments clés, pour rester à la lutte devant. Et là, il l'a pas fait. Du coup, il s'est retrouvé bloqué dans un peloton relativement lent par rapport au rythme pratiqué devant. Et il finit à une logique 10e place. Et il aurait même pas fini dans les points s'il n'y avait pas eu la disqualification de Di Grassi. Donc, Prost aussi s'éloigne du titre. Comme vous allez pouvoir le voir au classement, puisque Piquet est premier avec 103 points, Buemi deuxième avec 101 points à 2 points, Di Grassi troisième à 93 points, c'est pas fini pour lui, loin de là, il était en tête avant le e-prix, mais bon, c'est très bête ce qui a été fait à Berlin. Prost quatrième, déjà pas mal plus loin, à une victoire de Piquet, puisqu'il est à 78 points, D'Ambrosio cinquième, 77 points, et Bird sixième, 68 points. Voilà tout ce que j'ai dit, ça se vérifie dans le classement. C'est-à-dire que Piquet, Buemi, Di Grassi, ok pour le titre, ça c'est clair, ils vont lutter. Prost, il faut vraiment qu'il accroche un podium parce que là il s'éloigne de plus en plus et son attitude en course n'est pas la bonne. D'Ambrosio, j'ai tout dit, à voir ce qu'il peut faire, s'il peut continuer sur cette lancée. Et Bird, à voir s'il peut inverser la tendance. Parce que là sinon, Bird, l'oiseau va s'envoler du titre. Il ne va plus le revoir, le trophée. Voilà, il reste 3 e-prix avant la fin de la saison. Le prochain e-prix, c'est ce week-end à Moscou. Ouais, ce week-end, le e-prix à Moscou. Le Grand Prix, surtout le Grand Prix du Canada. Le Grand Prix du Canada sur le circuit Gilles Villeneuve. Et à ces occasions, il y a de nombreuses occasions. Et en attendant le prochain podcast, vous le savez désormais, vivons notre passion. À bientôt.